Eh bien oui, Mère Céleste, on veut te dire merci. Merci pour toutes les personnes qui vont nous écouter maintenant sur Internet également. Merci de bénir notre pasteur Priscille Michel. Merci de lui donner toute l'autorité, la sagesse et remplis-la de ton Saint-Esprit en ces instants. Que cette parole qui sera prononcée puisse entrer dans nos cœurs. Amen.
Le petit gligli qui me permet de passer les dias. Aujourd'hui, on va parler de cette maison dont on a parlé dans le dernier chant. Alors, on est toujours dans notre série « Une communauté animée par l'espoir ». Et la dernière fois, pour ceux qui étaient là, on a commencé à s'intéresser au cœur de notre vision d'Église, vivre et rayonner l'amour de Christ. Nous avons... Ça marche ? Il faut l'allumer. Je me demande, il n'y a peut-être pas de pile. Ok, super. Alors, on a vu la dernière fois que le salut n'est pas un champignon hallucinogène qui transforme notre manière de penser et d'agir à notre insu. C'est pas ce que c'est. On a vu la dernière fois qu'on doit s'approprier l'amour de Christ par une préparation mentale d'un ordre spirituel. Et Dieu fait sa part, ça c'est une réalité, mais nous, nous sommes aussi appelés à faire la nôtre. Nous sommes appelés à faire de l'ordre dans nos pensées, nous sommes appelés à nous mettre en relation avec Dieu de manière intentionnelle pour laisser Dieu pleinement habiter et nous transformer par sa présence dans nos vies. Alors jusqu'à présent, le texte de 1 Pierre, sur lequel nous sommes en train de passer plusieurs dimanches, dans ce texte, on s'est principalement intéressé à comment nous sommes habités de manière individuelle par la présence de Dieu. Et on a fait effleurer l'aspect communautaire que juste à la fin du message la dernière fois. Lorsqu'on a vu qu'on était appelé à vivre l'amour de Jésus-Christ, premièrement pour le rayonner avec nos frères et sœurs, en les aimant d'un amour ardent, parce que porteur de la vie du Christ. Et aujourd'hui, pour la première fois, on va vraiment s'intéresser, on va aborder la question de l'Église. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce message... J'ai vraiment de la peine aujourd'hui. J'ai intitulé ce message « L'espoir vous forme en tant que peuple de Dieu ». Alors, j'aimerais vous lire le texte sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui. 1 Pierre 2, les versets 1 à 10. « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. » Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous, qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, dans la première partie de ce message, j'aimerais vous parler de deux éléments qui définissent l'identité de l'Église. Donc, on va parler de l'identité de l'Église. Et pour parler du premier élément, j'aimerais vous poser une question. Voyez tous ces truffes au chocolat. Parmi vos cinq sens, quel est celui qui va vous permettre de vous mettre le mieux en contact avec ces truffes au chocolat? Le goût. Quand je goûte une truffe, quand je l'ingère, alors je fais connaissance avec un monde de saveurs dont je me délecte, que je m'approprie. Si je m'étais contentée de regarder la truffe, j'aurais aucune idée à quel point cette truffe est bonne et douce. À la base de l'Église, il y a une saveur tellement forte qu'elle est la fondation même de l'Église. Cette saveur, nous dit le texte, c'est Christ. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et de manière assez intéressante dans ce texte, la base de l'Église, ce n'est pas seulement Christ, mais c'est ce goût que nous avons pour lui et qui nous pousse à nous approcher de lui. Approchez-vous de Christ si vous avez goûté qu'il est bon. Est-ce que vous aviez déjà envisagé que la manière de vous mettre en contact le plus intimement avec Christ, c'était d'y goûter? Si nous l'observons ou si nous l'écoutons, on va peut-être être impressionné par ses paroles. Admiratif, ou alors indifférent, ou alors même rejeter ses paroles, comme ceux qui, dans le texte, rejettent le Christ. Mais si nous nous en approchons, alors nous allons probablement être envahis par la bonne odeur d'un individu pur. Nous allons gagner en intimité avec lui. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il nous faut goûter Christ. Comme un nouveau-né dont le corps tout entier exprime son besoin d'un seul et unique aliment, le lait maternel, dans ce texte, notre être, Pierre nous parle de notre être tout entier qui exprime son besoin d'un seul et unique aliment, Christ, ce lait spirituel. C'est en goûtant Christ, c'est en nous nourrissant de lui que nous pouvons vivre son amour. Goûter Christ, ça parle d'une intimité profonde avec lui. On ne l'écoute pas juste de manière respectueuse, mais on s'unit à lui. Et la base de l'Église, c'est nous tous qui nous mettons en mouvement pour nous approcher de Christ, pour y goûter. C'est le premier élément qui définit l'identité de l'Église. Mais ce n'est pas tout, il y a un deuxième élément. Alors que nous nous approchons de Christ, de manière assez logique, on s'approche aussi des personnes qui sont en train de s'approcher de Christ. Vous êtes tous, vous habitez tous quelque part à Lausanne ou dans le Grand Lausanne, et aujourd'hui, vous êtes venus et vous êtes tous rapprochés. Maintenant, vous êtes à quelques centimètres les uns des autres dans cette salle. Et ce qui vous a rapproché, c'est Christ. Et avec cette définition, nous avons une avec ces deux éléments, nous avons une définition possible de ce qu'est l'Église. Ça n'a pas fonctionné. L'Église, c'est que des personnes qui s'approchent de Christ pour y goûter. Ce faisant, en s'approchant de Christ, elles s'approchent les unes des autres. Mais avant d'aller plus loin dans ce qu'est l'Église, j'en arrive maintenant à la deuxième partie de ce message. En fait, il y a un mais. Dans son texte, Pierre y mentionne plusieurs éléments qui nous empêchent de nous approcher les uns des autres. Et par ricochet, ces éléments nous empêchent de nous approcher de Christ. Et c'est ça la deuxième partie du message. Ce qui nous empêche d'être l'Église. Pourtant, le fait que nous puissions nous approcher les uns des autres, je pense que ça fait partie des plus grandes bénédictions, d'une des plus grandes bénédictions que l'on puisse connaître. Et pour ceux d'entre vous qui étaient là l'autre jour, Jean Bernet a témoigné et il a dit « Il y a une onction à faire partie d'une communauté. » La communauté, elle bénit ceux qui en font partie. Mais faire partie d'une communauté, c'est aussi un très grand défi. Alors, prenons l'exemple de notre communauté, par exemple. C'est beau toutes ces générations différentes qui sont là les dimanches. C'est beau toutes ces sensibilités. C'est beau toutes ces personnalités différentes. Mais c'est aussi un défi. Et c'est d'autant plus un défi qu'on ne cherche pas à être lié par le plus petit dénominateur commun, mais par le plus grand. Je m'explique. Et pour cela, j'aimerais utiliser la deuxième image que Pierre utilise dans son texte. Après l'image du goût, ce goût de Christ qui nous met en mouvement, nous approchons de lui et nous approchons les uns des autres, Pierre utilise une autre image. Christ, il est la pierre angulaire, la pierre sur laquelle toutes les autres pierres du bâtiment viennent se poser. Nous sommes des pierres vivantes et nous nous édifions sur cette pierre angulaire pour former une maison spirituelle, nous dit le texte. Et à nouveau dans cette image, il y a cette idée de proximité. Proximité de Christ, bien sûr, mais aussi proximité les uns des autres. Ce qu'il y a de plus dans cette image, c'est que l'idée de tout ce rapprochement, il y a un objectif derrière toute cette idée de rapprochement. Nous sommes appelés à former une maison spirituelle. Alors, c'est un magnifique objectif. Mais un objectif très ambitieux avec des pierres qui ne sont pas des pierres minérales, mais des pierres vivantes. Ça demande un travail d'ajustement pour qu'on puisse former cette maison spirituelle qui s'élève avec des murs droits. Et pas étonnant dans ce cas, avec un pareil objectif, une telle ambition que la vie communautaire ne soit pas toujours facile. Avec ma sœur, on rigole parfois qu'avant qu'on rencontre nos maris respectifs, on se croyait bien meilleur que ce qu'on est. Puis tout d'un coup, on s'est mariés et on s'est rendu compte, oh là là, mais quel défi de gérer quand il y a un conflit qui éclate dans notre couple. On n'est pas du tout aussi paisible, aussi conciliante, aussi merveilleuse que ce qu'on croyait. On est tombé un petit peu d'un piédestal. Et dans l'Église, c'est la même chose. Il y a des défis relationnels à relever. Ceci d'autant plus que nous avons l'objectif de former quelque chose de terriblement exigeant, une maison spirituelle. On va en reparler de ce que c'est cette maison spirituelle dans la troisième partie. Mais là, j'aimerais vous parler des défis relationnels que cela représente. Face à tous ces défis relationnels, Pierre, il ne nous dit pas « c'est pas OK que vous les ayez ». Ce n'est pas ça qu'il dit, mais il nous indique une manière dont nous devons les gérer. Dans le verset 1, c'est par ça que ce passage commence. Il dit « rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance ». Si nous ne rejetons pas toutes ces choses, nous ne pourrons pas nous ajuster les uns les autres pour former une belle maison spirituelle. S'attaquer à toutes ces choses, c'est donc quelque chose d'absolument capital. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'en ai 8 de plus que ça, c'est quelque chose que j'ai clairement refusé de rejeter dans ma vie. Et c'est quelque chose qui m'empêchait de m'approcher de mes frères et sœurs. Depuis très jeune, je ne sais pas quand ça a commencé, mais j'avais un esprit extrêmement négatif, un esprit critique face aux autres. Et cet esprit m'empêchait de m'approcher de mes frères et sœurs. C'était quelque chose de très fort dans ma vie. Et ça me rongeait complètement de l'intérieur. Je pense que pendant tout un temps de ma vie, je ne m'en suis pas rendu compte. C'était juste là. Et je ne m'en rendais pas compte. Et puis, il y a des choses qui se sont passées, puis à l'âge de 30 ans, je pense que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a travaillé au corps. Et j'en suis venue à ne plus en pouvoir de cet esprit qui me rongeait. J'en pouvais plus de cet esprit. J'en voulais plus. À tel point que ce que je n'aurais jamais fait avant, j'en ai parlé, je me suis ouverte à quelques amis et j'ai demandé qu'ils prient pour moi à ce sujet. Et puis, ils ont prié. Et puis, deux personnes parmi ce groupe d'amis ont partagé des images qu'ils avaient reçues à mon sujet. Et la première image, c'était un ami qui m'a partagé. Il voyait comme une bobine de fil de nylon. Et puis ça représentait la critique dans ma vie, cet esprit négatif. Et puis, il disait, tu vois, 2-3 tours de fil de nylon, c'est pas bien grave. Tu peux toujours bouger. T'es pas tellement entravé dans tes mouvements. Mais maintenant, imagine cette bobine de fil qui fait des milliers de tours autour de toi. Et tu te retrouves complètement captif de ton esprit négatif. C'est beaucoup plus sérieux que ce que tu crois. Et puis, cet ami m'a aussi partagé quelque chose. Il m'a dit, tu sais, je vois aussi Dieu qui est à côté de toi. Et Dieu, il a une immense paire de ciseaux. Et au fait, il lui suffit de couper tous ses fils, c'est facile. C'est un jeu d'enfant. La solution, elle est là. Alors, je n'ai pas le temps de vous partager la deuxième image, mais elle allait exactement dans le même sens. J'étais captive de cet esprit critique et négatif, et Dieu était là pour m'en libérer. Alors, quand j'ai reçu ces images, j'ai été complètement transpercée. C'était ça la réaction. Parce qu'elle parlait exactement de la place que la critique avait dans ma vie. J'étais prisonnière de cette critique et je savais que c'était moi. Je me reconnaissais dans ces images qui avaient été partagées. Il n'y avait pas d'exagération là-dedans. Et pendant 3 jours, j'ai lutté. Pendant 3 jours, j'ai plus parlé à personne. Pendant 3 jours, j'avais tellement honte de m'être ouverte devant mes amis. Puis après 3 jours, avec l'aide de Nicolas, j'ai capitulé. Et puis j'ai demandé à Dieu qu'il vienne me libérer avec sa paire de ciseaux. Et si je vous raconte ça, c'est que ça a été un des événements forts de ma vie de foi. Et ce jour-là, il s'est passé 2 choses. La première, c'est que j'ai été profondément libérée de cet esprit critique et négatif que j'avais au fond de moi. Et ce n'est pas que je ne doive plus dire non à la critique, mais elle ne domine plus sur ma vie. Elle vient des fois faire 2-3 tours, mais je peux toujours m'approcher de Dieu et puis il est là avec sa paire de ciseaux. Et puis, encore plus incroyable, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai pu vraiment m'approcher de Christ et goûter à quel point il était bon. Jusqu'à ce jour, je croyais en lui, je croyais profondément en lui, mais je n'avais pas goûté à sa bonté, à sa douceur. Ce jour-là, je l'ai fait. Et c'est aussi à partir de ces jours que j'ai pu commencer à m'approcher de mes frères et sœurs en Christ, réellement, comme j'étais, sans me dissimuler. Et ça a tout changé à ma vie. Et c'est probablement à cause de cet événement, en grande partie, que je suis là devant vous aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai parlé de sobriété. S'attaquer à ce qui dans nos vies prend la place de Dieu. Chers amis, ce qui nous empêche de nous approcher les uns des autres, non seulement ça prend la place de Dieu qu'on pourrait donner à Dieu dans nos vies, mais ça nous empêche aussi de nous former en tant qu'Église. Le verset 1 nous dit « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Alors, on est des personnes assez sophistiquées, hein? On est des personnes suffisamment sophistiquées en général pour qu'on ne se casse pas la gueule à la fin du culte. Ça marche assez bien. Mais la sophistication, elle peut en général pas grand-chose contre les pensées qui nous rongent. Qu'est-ce que c'est la malice dont nous parle le verset 1 ? Alors, le terme grec, il décrit à lui seul toute une gradation d'attitudes négatives. Dans sa forme la plus soft, on pourrait parler de mesquinerie, un manque de générosité envers autrui. On voit la petite bête chez l'autre et on en prend bonne note. Dans sa forme la plus aiguë, quand on laisse libre cours à son manque de générosité, alors ça peut carrément s'exprimer de manière délibérément cruelle envers autrui. La mesquinerie, sous toutes ses formes, elle nous empêche de nous approcher de nos frères et sœurs et de former une maison spirituelle avec eux. Et parce qu'on ne peut pas s'approcher de nos frères et sœurs, nous sommes aussi entravés dans notre marche où nous nous approchons de Christ pour y goûter. La ruse. Le terme grec est à entendre comme de la tromperie. Quelqu'un qui déguise ou qui cache la vérité. La dissimulation, le troisième terme, c'est le fait de chercher à donner une impression de soi qui ne correspond pas réellement à ce qu'il y a au-dedans de nous. C'est par exemple une attitude mesquine à l'intérieur et puis un grand sourire à l'extérieur. L'envie, le quatrième terme. C'est une attitude qui est caractérisée par un sentiment de jalousie envers ce qui appartient à autrui. Et finalement, la médisance, le meilleur pour la fin. C'est le fait de parler mal de quelqu'un. Et puis, dans la plupart des cas, c'est le fait de parler de mal de quelqu'un derrière son dos. Quel est l'effet de la médisance ? L'effet de la médisance, c'est figer quelqu'un dans une boîte. Non seulement la médisance a tendance à présenter la personne sous un de ses aspects négatifs, mais en plus, la médisance, elle présente la personne comme incapable de changer, incapable d'évoluer. La médisance, et c'est pour cela qu'elle est à prendre comme ça au sérieux. La médisance, elle s'appuie sur un présupposé, si on réfléchit. Ce présupposé, il est contraire à la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut que Dieu nous offre, c'est cette vie qui vient profondément nous transformer. Alors c'est vrai que dans chacune de nos vies, il peut y avoir des grandes forteresses qui peuvent sembler indéboulonnables. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être le contrôle, ça peut être un esprit négatif comme c'était le cas dans ma vie. Mais si on croit que la vie de Dieu nous transforme et nous libère, alors il faut qu'on soit cohérent. Et il faut qu'on arrête de mettre les autres dans des boîtes où on les déclare incapables de changement. Il y a d'autres solutions que la médisance. Il y a la prière, par exemple. Il y a le fait d'aller trouver la personne avec amour et de la confronter. Ouf, on en a fini avec cette liste. Toutes ces réactions, elles parlent de la difficulté qu'il y a à être en relation avec les autres. Mais toutes ces réactions, elles parlent aussi d'autre chose. Elles parlent de ce dont notre cœur est empli. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Si dans nos cœurs, nous nous approprions jour après jour la présence de Dieu dans nos vies, son amour, alors on va pouvoir rejeter toutes ces choses, comme l'apôtre Dieu nous le suggère. Ce n'est pas un travail facile. Renoncer à ces choses, en quelque sorte, c'est renoncer à notre manière instinctive de gérer les difficultés relationnelles. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, la médisance, c'est assez instinctif. Hein. Et j'ai vraiment besoin d'être profondément habitée par la présence de Dieu dans ma vie pour pouvoir y dire non, pour pouvoir la rejeter loin de moi. Cette présence qui seule est capable de vraiment me transformer, transformer mon cœur et transformer ma manière instinctive, naturelle de gérer mes différends. Alors probablement que tous, on peut se reconnaître à un degré plus ou moins fort dans ces 5 réactions dont je vous ai parlé tout à l'heure. On n'est pas appelé à les rejeter pour être plus malheureux que ce qu'on est maintenant. Dieu nous demande d'y renoncer parce que c'est seulement alors que nous pourrons véritablement goûter à quel point il est bon. Dieu, il nous demande d'y renoncer pour que nous puissions aussi nous approcher les uns des autres et à goûter à quel point c'est bon de faire partie de son peuple. Dieu, il nous demande d'y renoncer pour qu'on puisse faire partie de son Église. J'en arrive à ma 3e partie. Dans la partie 1, on a vu que l'identité de l'Église, elle est définie par un double mouvement de rapprochement. Ce goût de Christ qui nous pousse à nous approcher de lui et ce faisant qui nous approche des personnes qui sont en train de s'approcher de Christ. Ce double mouvement qui nous permet de former une maison spirituelle qui s'érige sur la pierre angulaire, la fondation Christ. Dans la 2e partie, on a vu plusieurs choses qui nous empêchent de nous approcher les uns des autres et qui nous empêchent de former l'Église telle que Dieu l'entend. Dans la partie 3, on va maintenant s'intéresser à la mission de l'Église. L'Église, dans ce texte présenté comme une maison spirituelle, ça parle d'un édifice où chaque pierre trouve une place précise. Ça parle d'un édifice où chaque pierre s'ajuste avec les pierres qui l'entourent, pour avoir une maison au mur bien droit et solide. Et dans cette maison spirituelle que nous formons, ce qui nous lie les uns aux autres, ce n'est pas le petit dénominateur commun. On a tous été un jour interpellés par Christ dans nos vies. Ce qui nous lie, c'est le plus grand dénominateur commun auquel on puisse penser. Tous ensemble, accueillir la présence de Dieu. tous ensemble, nous formons une maison spirituelle où nous accueillons la présence de Dieu. Et parce que nous sommes habités collectivement par cette présence de Dieu dans nos vies, Dieu peut maintenant nous confier la mission qui va avec le fait d'être habité collectivement par sa présence. Le verset 10 nous dit « Vous êtes une race élue, des rois prêtres, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ces quatre expressions sont utilisées dans l'Ancien Testament pour parler de la mission du peuple de Dieu. Une race élue, un peuple acquis. Nous avons vu début janvier que nous avons été choisis par un Dieu qui nous aime de manière trinitaire pour que nous lui appartenions. Une nation sainte. Nous avons vu la dernière fois que nous sommes appelés à refléter Dieu dans toute la sainteté de son amour. Et cela ne se fait pas par une série de règles que nous nous imposons, mais cela se fait par sa présence que nous invitons dans nos vies et qui nous donne ce désir profond de ressembler à notre Dieu et Père. Et maintenant, l'expression sur laquelle j'aimerais m'attarder plus longtemps. Un sacerdoce royal, c'est-à-dire des prêtres royaux. Nous sommes les prêtres du grand roi ou nous sommes les prêtres d'un rang royal. C'est une allusion à Exode 19, au verset 6, que la prochaine fois les ateliers bibliques vont aborder. « Vous serez pour moi un royaume de prêtres », nous dit Exode 19, 6. Alors, qu'est-ce que c'est un prêtre? Dans le passage d'Exode qui nous intéresse, Dieu déclare à son peuple, dans son entier, qu'il a accès à sa présence et qu'il est appelé à rayonner sa présence à toutes les autres nations. Et l'appel continue à être le même aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant qu'Église, peuple de Dieu, nous sommes prêtres. Nous avons un accès intime à Dieu parce que nous y avons goûté, parce que nous avons accueilli sa présence dans la maison spirituelle que nous formons. Et parce que cette présence nous habite, nous sommes appelés à la rayonner autour de nous. Proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu, dont la présence pleine d'espoir nous forme en tant que son peuple, Dieu nous envoie pour rayonner sa présence autour de nous. Alors j'aimerais conclure ce message avec un dernier point. Un point qu'il est peut-être particulièrement difficile à comprendre dans une société assez individualiste. La dernière fois, on a vu dimanche passé que nous étions appelés à nous nourrir de l'espérance de Dieu dans nos vies, de manière individuelle. Et cette responsabilité individuelle, on n'a pas trop de peine à la comprendre. Cette fois, nous voyons que nous sommes appelés à nous nourrir de la présence de Dieu de manière collective, en acceptant ce travail de rapprochement les uns des autres. Nous sommes appelés à former tous ensemble une maison spirituelle qui se laisse habiter par la présence de Dieu. Et cette responsabilité collective, on a plus de peine à la comprendre. Je reprends un slide que Nicolas avait montré il y a 2 semaines. Encore et encore, on a souvent tendance à réfléchir à l'Église comme une collection d'individus, les uns à côté des autres. Mais Nicolas avait aussi utilisé cette illustration. C'est un tableau de Chagall qui représente Moïse et le peuple qui le suit. Alors si on transpose ça à Christ, Christ, la tête de l'Église, et nous sommes nous. Nous sommes son corps. J'aimerais, on voit ici la dimension collective de l'Église. Pour vous parler de cette dimension collective, j'aimerais vous utiliser une dernière illustration. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la course qui se déroule en septembre, qui s'appelle le Color Run? Alors, c'est un événement sportif qui a été fondé en 2011 et puis qui s'est petit à petit propagé. J'ai lu sur Internet, maintenant c'est dans 200 villes et 40 pays différents, y compris Lausanne. Et c'est un événement sportif qui est là pour promouvoir la santé et le bonheur. C'est ça le but de la course. Il y a des gens qui font une course de 5 km et puis au départ, ils sont habillés tout de blanc et à l'arrivée, ils sont couverts de couleurs de la tête aux pieds. Donc ça, c'est des color runners. Et en fait, à chaque kilomètre qu'ils parcourent, ils sont aspergés d'une couleur, une différente couleur. Et à la fin, bah, ça donne ce magnifique tableau que vous avez devant les yeux. Alors maintenant, imaginez que vous prenez le bus demain matin, puis que vous allez au boulot. Et puis dans le bus, il y a toutes les personnes qui vont travailler au boulot, puis il y a une personne comme ça. Alors, vous allez tout au plus trouver cette personne bizarre, puis vous demander si elle n'a pas quelque chose de mieux à faire que de se barbouiller de couleurs un lundi matin pour aller à l'heure où tout le monde se rend au boulot. Mais maintenant, imaginez que vous êtes le 25 septembre 2016 et que vous vous baladez à Ouchy et que vous vous retrouvez face à des milliers de personnes qui ressemblent à ça. Alors, c'est possible que vous trouviez ces gens complètement ridicules, ou c'est possible que vous soyez attirés par cette masse, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que ces ambassadeurs de la santé et du bonheur, ils ne vont pas vous laisser indifférents. Vous les sentez porteurs d'un message. Un message qui les dépasse très probablement, mais en néanmoins un message très ostensible du fait qu'ils sont des milliers à porter exactement les mêmes couleurs de la même façon, de la tête aux pieds. Si leur message parle, c'est que c'est tout un peuple de color runners qui se trouve devant vos yeux, pas juste un. Nous sommes la nouvelle humanité de Dieu. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Former l'Église, c'est nous approcher de Christ. Former l'Église, c'est nous approcher les uns des autres qui nous approchons de Christ. Et c'est ainsi que nous serons les color runners de Dieu, porteurs de son espoir.